Vous écoutez RTL.
All through the night.
Les nocturnes de RTL, de minuit à 2h du matin.
Depuis 1973, la musique a toujours été ma priorité.
1973, 2017, 44 ans de légende.
George Lang.
La musique.
Le mercredi soir, les auditeurs pas comme les autres programment l'émission.
Ce soir, à partir de minuit, les nocturnes du mercredi avec Olivier Royan.
Directeur de la rédaction de Paris Match.
Il a oublié la rédaction ce soir pour devenir animateur de radio et plus particulièrement chroniqueur de musique. Monsieur Royan, qui est en face de moi. Deux mots pas trop longs. Bref, quoi, à propos de Seal et de Let's Stay Together qu'on va écouter. Pourquoi cette version-là et pas celle d'Al Green, par exemple ?
Bah, j'avais envie de faire des croisements. J'avais envie de voir des artistes interpréter des chansons qui ne sont pas les leurs, voir comment ça marche. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été très ému par Seal, hein, par sa cette façon de chanter, cette profondeur. Je trouve que ça lui va bien. Let's Stay Together, il l'interprète magnifiquement. Il y a quelque chose chez cet artiste qui est très profond, qui m'émeut beaucoup.
Un artiste qu'on aime bien à RTL, il ne peut pas passer à Paris sans venir chez nous. Et nous, on lui est très reconnaissant de cela. Allez, restons ensemble jusqu'à 2h du matin pour écouter la musique qu'on aime.
I'm so in love with you. Whatever you want to do is all right with me. Since we've been together, loving you forever is what I need. Oh, let me be the one you come running to, 'cause I be
Stay Together pour démarrer la deuxième heure des Nocturnes d'Olivier Royan, mon invité dans cette émission. Et puis là, tout de suite, Michael Bublé. Alors là, je suis ravi que tu aies programmé cette chanson. Je ne sais pas si ce n'est pas un bonus sur l'album. Je ne pense pas que sur l'album normal, ce titre-là que tu as programmé existe.
C'est un petit bijou, en tout cas.
Oui, c'est un petit bijou.
Un petit bijou qui date de juillet 1966.
Oui, la version originale.
Version originale. Et alors, cette chanson, elle est considérée, mon cher Georges, par Paul McCartney et pas mal de critiques comme
la plus belle chanson du
J'ai
monde.
J'ai lu ça. Alors, est-ce vrai ou pas? En tout cas, est-ce que McCartney l'a dit? Rien que cela. Et puis, j'ai remarqué qu'elle avait été reprise par Bowie. Bowie changeait de... intervertissait l'ordre des couplets dans sa version.
T'en sais plus que moi, je
vais vérifier. Et puis, on voit qu'elle a été reprise au cinéma, dans Boogie Night, elle est reprise dans Love Actually, ça revient, cette chanson d'amour.
Et il y a une version formidable aussi qui est sortie il y a 2 ans, qui est un collectif d'artistes, pour la plupart anglais, mais il y a quand même quelques Américains. Il y a même Ariana Grande, dont on parle tant, pour des raisons qu'on connaît, il y a Elton John, et puis il y a aussi celui qui a écrit la chanson, parce qu'on n'a toujours pas nommé celui qui l'a écrite,
voilà.
Brian Wilson.
Beach Boys,
l'âme de ce groupe, le fou, mais génie, quoi, dans son genre. Et cette version, elle commence avec la participation de comment s'appelle-t-il ? J'ai un trou de mémoire. Celui qui chantait avec Daft Punk, l'américain fluet, comme ça. Pharrell Williams, voilà, merci de m'avoir retrouvé ce nom. Et cette version-là, tu ne la connais pas ? Et si tu regardes le clip, tu vas tomber à la renverse tellement il est beau. Ça a été fait par la BBC pour une œuvre caritative, et c'est exceptionnel. On va regarder ça, tiens, tout à l'heure, sur l'écran que j'ai.
Et à quel point ces chansons ne prennent pas une ride. C'était vraiment extraordinaire de voir quand même qu'il y a une sorte de génie. Alors, les arrangements, je pense que les nouveaux arrangements permettent à des publics plus jeunes d'accéder à ces chansons qui ont finalement été écrites il y a très longtemps.
Oui, mais quand une chanson est bonne, elle ne prend pas de ride. Hein. Par contre, tu as des titres qui ont été enregistrés il y a 5 ans qui sont déjà à mettre au rebut, tu vois. Mais celle-là...
Éternelle.
Elle est belle aussi. Les arrangements sont sublimes. Michael Bublé. Il s'agit de lui. God only knows.
Without you. if you should ever leave me, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you.
D'Olivier Royan, qui a choisi de nous faire entendre donc Michael Bublé, God Only Knows. Et maintenant, parlons de Diana Krall.
Et là, on continue sur notre lancée. Ouais. On confie à des artistes d'aujourd'hui des chansons, des petits trésors des années 60.
Ouais, c'était beau ce disque qu'elle nous a offert et qui s'appelle Wallflower, du nom d'une chanson de Bob Dylan d'ailleurs.
Ouais.
Là, je ne me suis pas trompé, je n'ai pas dit pour Springsteen cette fois-ci. Alors, ce disque, il a été un immense succès, mais elle a peut-être eu peur de ce succès. Elle est revenue au jazz maintenant, son nouvel album, tu l'as écouté ou pas?
Oui, j'ai écouté.
Moi j'aime bien, hein, mais c'est pas grand public, on est d'accord.
Non, mais elle a beaucoup de cordes genre à son arc, elle est capable de faire beaucoup de choses. Elle a une grande profondeur.
Elle a un beau grain de voix quand même.
Très très beau grain de voix. Et j'ai quand même été... En programmant California Dreaming, j'ai pas pu m'empêcher de retourner voir la vidéo des Mamas and Papas.
Ah
et
ouais.
Ça, c'est quand même extraordinaire, ces quatre personnages qui chantent à la télévision avec des physiques tellement différents.
Ouais.
C'est formidable. Il y a une sorte de c'est joyeux.
Mais force est de constater que c'est quand même la moins réussie physiquement qui a la plus belle voix.
Exactement.
Hein. C'est souvent le cas dans les groupes.
Exactement.
Elle s'appelle Babacas. Hein.
Alors quand même, c'est un titre qui a été, je crois qu'il a figuré, était dans les 90e ou meilleures chansons de l'histoire de du classement du magazine Rolling Stones. Donc c'est quand même vraiment ce titre, California Dreaming, est resté une sorte de titre iconique.
Mais elle ajoute quelque chose, Diana Krall, chantant. Je trouve que sa voix est exceptionnellement belle. Et c'est produit par David Foster, qui n'est pas n'importe qui, c'est un grand producteur. Elle avait fait d'ailleurs une petite parenthèse dans sa carrière, parce qu'en temps normal, c'est Tony Lipuma qui produisait ses disques. D'ailleurs, le dernier disque a été produit par Tony Lipuma, et le pauvre, 80 ans, est décédé au moment où l'album est sorti. Et ça l'a beaucoup affecté. Elle en parle avec beaucoup d'émotion quand elle en parle. Elle était là à Paris il y a 15 jours pour un showcase que j'aurais bien voulu que tu vois, qui était exceptionnel. Mais elle va revenir à RTL, t'inquiète pas. Tu l'avais vu à RTL?
Oui, bien sûr, j'ai un très très bon souvenir la dernière fois.
Ouais. Elle n'était pas en forme physiquement, mais son concert était exceptionnel. Hein. Et tu te souviens comment elle a commencé le concert? Tu t'en souviens?
Non.
Ben, elle m'a regardé droit dans les yeux, devant le public. Hein. Tu étais dedans, elle a dit... I love you, George.
Oh.
All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and if I was in LA, California dreaming on such a winter's day. Mm.
stopped into a church. I passed along the way. Got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher likes the gold. He knows I'm gonna stay. Such a winter's day. If I didn't tell him I could leave today. California dreaming on such a winter's day. On such a winter's day. On such a winter's day.
Voilà, c'était Diana Krall avec ce petit côté très vacances à la fin. On avait envie de danser en l'écoutant. Et on parlait en antenne de Diana Krall. On aime vraiment bien. Hein,
cette, absolument, cette artiste. On aime beaucoup.
C'est une artiste RTL, hein, je te signale. Elle va venir chanter à l'Olympia. Elle a ajouté une date. Elle chantera les 7, 8 et 9 octobre prochains. Elle ira après à Monaco et à Marseille. Voilà, on l'attend. Ah, alors on a maintenant le disque mystère pour moi.
Oui, et on va avoir besoin peut-être de l'aide des auditeurs.
Parce que quand tu m'as demandé dans ta liste The Themasters, je ne savais pas qui c'était. Alors je suis allé sur Spotify, j'ai recopié le titre que tu m'as demandé, Far From Any Road. Et on a le disque, mais on ne sait pas qui c'est. Mais il y a une histoire, il y a une raison pour laquelle tu l'as programmé.
Alors j'ai programmé parce qu'évidemment c'est la bande originale de la série que les auditeurs connaissent peut-être, qui s'appelle True Detective. C'est la première saison, vous savez, qui se déroule en Louisiane. C'est une série qui fait avec comme acteurs principaux Matthew McConaughey, Woody Harrelson, deux Oscars du meilleur rôle masculin. Et c'est l'enquête de deux inspecteurs qui sont très différents de la Louisiana State Police et qui sont chargés de résoudre le meurtre d'une jeune femme coiffée de bois de serre et tatouée de dessins sataniques. Et ça nous fait rentrer dans cette atmosphère enquête policière en Louisiane, dans le sud des États-Unis, des images qu'on n'a pas l'habitude de voir. Une série télé qui est devenue une série culte puisqu'il y a eu un deuxième chapitre en Californie. C'est une anthologie. À chaque fois, ils changent les acteurs. Je trouve que cette bande originale est très très forte. Alors on aimerait savoir qui sont ces Themasters, c'est les interprètes de cette chanson qui s'appelle Far From Any Road. En tout cas, ça montre l'importance aussi, Georges, dans le paysage américain, de l'importance des séries aujourd'hui et qui ont besoin, qui se servent, qui puisent dans la musique ou du répertoire musical aussi des thèmes pour renforcer la narration, le scénario.
Donc si vous savez qui sont les Themasters, et on peut peut-être penser que ça se prononce aussi Themasters, on ne sait pas trop hein, en fait. C'est Themesters. Si vous en savez plus, allez-y, envoyez-nous un mail à lesnocturnes@rtl.fr. Il n'y a rien à gagner. Nous, on a juste envie de savoir qui sont ces gens-là qu'on programme maintenant tout de suite.
Creosote. She twines.
ça commence bizarrement et ça se termine tout aussi bizarrement et c'est très agréable à écouter. The Themesters, on va regarder du côté des mails s'il y a des réponses qui sont arrivées. En tout cas, merci de nous écouter. Si vous avez des questions posées à Olivier Royan, allez-y. Tiens, il y a quelqu'un qui demande quelle sera la prochaine couverture de Paris Match. Tu peux répondre.
C'est une couverture qui est consacrée à l'actualité diplomatique de les premiers pas de Macron sur la scène internationale, c'est-à-dire le G7, le sommet de l'OTAN et puis Versailles avec Poutine et la rencontre avec les leaders internationaux.
Question personnelle, ça prend combien de temps pour décider d'une couverture ? Vous mettez ça sur des murs, vous regardez.
Alors, question personnelle et réponse très franche. Soit la couverture, elle s'impose d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle est suffisamment forte, l'événement est fort, ça veut dire qu'elle s'impose d'elle-même. On trouve l'image. Alors, parfois, il y en a plusieurs. On essaye de faire plusieurs montages, de voir. Nous, on ne peut pas produire la couverture. D'une certaine manière, elle s'impose à nous. C'est une image d'actualité, souvent, qui est issue d'un reportage. Et alors, le problème, c'est quand on a 4 ou 5 couvertures, le choix entre 4 ou 5 couvertures, ça veut dire qu'en général, il n'y en a pas une qui sort du lot. Et c'est des semaines qui peuvent être difficiles parce que c'est vrai qu'il y a une attente sur la couverture de match qui est très forte.
Mais c'est toi qui as le dernier mot, c'est toi qui
choisis. Oui, il faut bien qu'il y en ait un qui décide. En général, ça tombe sur le directeur, oui, c'est ça.
En général, il y a deux ou trois rédacteurs en chef.
Bien sûr.
Il y a un rédacteur en chef de photo, il y en a un.
Oui, bien sûr, il y a un directeur de la photo qui s'appelle Guillaume Clavière. On a un service photo qui est très important. C'est un service photo aujourd'hui qui voit passer sous ses yeux 20 000 photos environ. Et pour donner une image, il y a une vingtaine d'années, on voyait passer entre les mains du service photo 2000 photos par jour. Maintenant, c'est 20 000 photos. Se dire cette cascade d'images ininterrompues qui nous passe sous les yeux, comment trouver la bonne photo, comment trouver le bon reportage au milieu de cette espèce de ce flot ininterrompu d'images. Et ça fait partie aussi de cette espèce de flot d'actualité qui nous submerge. Et comment on arrive à faire des choix, c'est très important. Je pense qu'à Match, on est là pour choisir. On est là pour choisir, avoir des reportages qui se différencient du journal de 20 heures à la télévision. Les gens qui achètent le journal le jeudi matin s'attendent à quelque chose d'exceptionnel, de différent, qu'ils n'ont pas vu à la télévision. Donc toute la difficulté aujourd'hui, c'est comment un grand magazine d'actualité comme le nôtre peut avoir à vocation à maintenir des exclusivités, à vous montrer des choses différentes, à vous faire découvrir des choses à une époque où finalement les gens ont tellement de moyens de communication, tellement de façons de découvrir des images.
Alors je vais te poser une question qui fâche. Est-ce que vous avez des pressions extérieures pour les couvertures ?
On pense
tout de suite, tu sais à qui ?
Oui, il y a des pressions extérieures.
C'est-à-dire chacun. Macron.
Non, mais chacun est dans son rôle. On m'a beaucoup interrogé sur le nombre de couvertures Macron. Nous, on a d'abord, en 2015, on n'a fait aucune couverture sur le couple Macron, alors que le phénomène Macron commençait à naître. Et puis l'année dernière, en mois d'avril, on a fait un sujet sur le couple Macron avec une photo qui était une photo d'agence. D'archives qui étaient 3 ou 4 mois de Brigitte et Emmanuel Macron qui arrivaient à un dîner officiel à l'Élysée. Et on a senti une vente importante qui dénotait d'une curiosité vis-à-vis du phénomène. Un nouveau personnage, une sorte d'envie. J'ai l'impression que les Français avaient vu quelque chose d'authentique dans ce couple, dans l'histoire de ce couple. Ils regardaient cette histoire en raison de la différence d'âge avec une certaine curiosité. L'histoire d'un élève qui épouse sa prof, c'est pas quelque chose de courant.
D'ailleurs, vous revenez sur ce sujet cette semaine dans Paris Match à propos du divorce d'une professeure américaine qui a fait de la prison parce qu'elle était tombée amoureuse
d'un...
Sûr. Mais elle était plus jeune, le gars. Il avait 12 ans à l'époque.
Exactement. Hein. Oui, Marie-Kay Le Tourneau.
Cette histoire qui a défrayé... C'est bizarre,
parce qu'elle était à la frontière du Canada et des États-Unis. C'était dans la région de Seattle et il y avait des croisements un petit peu autour de la frontière. Donc après, c'est vrai que chacun est dans son rôle. Les hommes politiques sont dans leur rôle de séducteur. Ils sont jamais contents. Évidemment, quand on s'intéresse on s'adresse au grand public français, la droite, la gauche. Paris Match, c'est pas un journal idéologique. C'est pas un journal c'est l'album des Français. Donc on n'est pas là pour dire. On se garde bien de conseiller les gens sur un vote quelconque. On essaye plutôt de raconter des histoires humaines et de voir les gens à travers leur propre itinéraire. Et c'est vrai que chacun dans son rôle. Alors du côté des stars du cinéma et de la musique, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire, le problème d'aujourd'hui, c'est que tout le monde veut tout contrôler. Ils veulent contrôler le verbe, ils veulent contrôler les images. Et finalement, où est l'authenticité là-dedans ? Et parfois, on a des moments de nostalgie en se disant quand même. Les acteurs de l'époque, les années 60, les années 70, ils acceptaient de partager des moments vrais avec leur public. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est promo, promo, promo. Ils viennent toujours vous parler quand ils ont quelque chose à vendre. Et je pense que le public aujourd'hui, le grand public, est à la recherche d'authenticité, de moments vrais. Qu'est-ce qui est authentique ? On a besoin de ça. Et je pense qu'au début de la... au début de l'épopée de Macron, j'allais dire cette épopée qui date depuis un an maintenant, les Français ont peut-être vu quelque chose d'authentique chez lui et dans ce couple. Et c'est ce qui a probablement chez eux généré une certaine curiosité, une certaine envie de découvrir le personnage un peu plus.
Ça va être dur de passer de Macron à George Harrison, mais on le fait quand même. On le fait
parce que d'abord, comme tu nous en parlais toute cette semaine, là, les Beatles, l'anniversaire, et puis là encore...
50 ans.
Un moment d'émotion. Moi, j'ai beaucoup de coups de cœur comme cela, un moment d'émotion, c'est-à-dire le concert for George, après la mort de George Harrison.
Un an après sa mort,
et on est en...
Et à l'initiative de Clapton, d'ailleurs.
Voilà, et puis de la veuve de George Harrison, Olivia, et de son fils Danny, qu'on voit jouer de la guitare, d'ailleurs, sur scène, derrière Eric Clapton, à côté de Paul McCartney. Et c'est un hommage qui est assez émouvant. Alors, j'ai vu qu'il est allé, il a été vu, cet hommage, par 27 millions de personnes sur YouTube. C'est assez extraordinaire. Et évidemment, George, on a le souvenir de cet incroyable solo d'anthologie de Prince. Mm-hmm. Sur la même chanson, c'est aussi un autre hommage à George Harrison. Là, c'était Prince avec Tom Petty. Et on a vu Prince engagé dans une sorte de solo de folie. Il est même à un moment donné, il a failli tomber de la scène. Et là, c'est resté. Alors, celui-là a été vu. Il était aux côtés de Tom Petty et de Stevie Wonder. Il a été vu par 40 millions de personnes sur YouTube. C'est dire quand même ces moments exceptionnels. Là, c'est un moment d'émotion. Hein. While My Guitar Gently Weeps, avec un Paul McCartney évidemment toujours impérial et qui dit son amitié pour ce copain.
Et il était très protecteur, Clapton, par rapport à Danny. Je m'en souviens très bien, j'ai encore les images en tête.
Alors, on ne sait pas quel âge a Danny, parce qu'évidemment, on voit ça. Il est très jeune, il a cette guitare acoustique. Je crois que c'est une guitare qui est un peu dans les tons rouges. Ouais. Il est derrière, il est entre McCartney, entre Paul McCartney et Clapton. Et on le voit, et c'est vrai qu'il a un peu les traits de son père.
Nocturne du mercredi
sur RTL
avec Olivier Royan.
Thank you.
ma guitare Gently Weeps, Clapton, McCartney, Danny et Olivia Harrison, l'hommage à George Harrison au Royal Albert Hall, choisi par Olivier Royan, mon invité dans les nocturnes sur RTL. Olivier, tu as vu la puissance de la radio un peu, on demande
c'est
quelque
fabuleux.
Chose.
On a la réponse.
Et Isabelle et Ludovic, je crois que Ludovic il est au Mexique en plus, c'est un Français qui habite là-bas, qui nous a envoyé donc un petit mot avec des explications. Quant à Isabelle, nous envoie carrément la biographie de ces gens qu'on recherche, les Themesters. On n'a pas tout lu encore, tu as déjà repéré quelques petites choses
intéressantes. En tout cas, on remarque qu'il s'agit d'un duo, un mari et une femme, qui s'appellent The Handsome Family, et qui ont en fait publié une dizaine d'albums en studio. Et plus récemment, le 16 septembre dernier, ils ont, sous un label qui s'appelle Virtual Label, ils ont sorti leur premier album depuis ce tube, Far From Any Road, qui a été utilisé comme donc la bande originale de True Detective pour la saison 1. Alors il y a une citation assez étonnante. Ils disent pour la famille, il y a un journaliste de NPR, la radio américaine, qui explique pour la Handsome Family, la musique est une façon sûre d'exprimer des choses terrifiantes. Et c'est vrai que c'est l'ambiance de True Detective, c'était vraiment terrifiant et satanique.
Voilà. Merci en tout cas à nos auditeurs, ce qui prouve bien que cette émission a été écoutée au Mexique, partout, avec Internet et même un peu moins loin, puisque je crois qu'Isabelle est une auditrice qui nous écoute très souvent, qui nous envoie des mails et qui habite le nord de la France. Je crois même qu'elle est venue dans ce studio il y a quelques années. C'était après un concert de je ne sais plus qui. Mais en tout cas, voilà. Merci à vous tous. Tu vois, c'est génial quand même, la radio.
Bah oui, c'est ça. C'est la magie de la radio.
Tu ferais un appel sur Paris Match, il faudrait attendre une semaine, quoi.
Voilà, c'est ça. Encore qu'on a maintenant, on a le site internet et puis on a les plateformes numériques qui nous permettent de parler de l'actualité en temps réel.
Brièvement, encore une question que je voudrais te poser. Paris Match, c'est du print, c'est du papier, c'est ça votre force, c'est reconnu dans le monde comme cela. Mais tu m'as expliqué l'autre jour, quand on s'est vu, que finalement, il y avait plein d'autres activités liées à Paris Match. Vous êtes donc obligé de faire avec, comme on dit. C'est-à-dire que tu n'as pas peur qu'un jour le papier perde vraiment de son importance?
Je pense que les gens, nous vivons tous des existences, j'allais dire, multiplateformes. C'est-à-dire qu'on a des vies selon les moments de la journée. On regarde son téléphone qui n'arrête pas de nous assaillir. On a les tablettes, on a l'ordinateur, on a le magazine. Il faut savoir que le magazine, finalement, c'est un objet. C'est un objet qu'on touche, c'est une expérience sensorielle. C'est que ça commence par du toucher, on l'ouvre, et finalement...
Mais je dis la même chose pour les disques. Hein.
Oui, et je pense que c'est vrai. Et la dématérialisation du support n'est pas quelque chose d'évident. On aimait bien toucher ces disques, on aimait bien les classer, on aimait bien les garder près de soi.
Les respirer, il y avait une odeur d'imprimerie qui...
Le magazine, ça reste ça. Alors, il y a 4400 magazines en France aujourd'hui. Je ne veux pas te garantir que dans 10 ans, il y aura 4400 magazines. En revanche, c'est un pays de magazines. La France adore les magazines, comme l'Allemagne d'ailleurs. Et c'est vrai que la façon dont les gens... C'est un objet personnel. C'est-à-dire, c'est une expérience personnelle. On le tient. Le magazine appartient à la vie privée des gens. Contrairement à ce téléphone qui, finalement, est quelque chose... est un objet qui vous empoisonne la vie au bout du compte. Eh bien, le magazine, c'est quelque chose que l'on prend, qu'on serre contre soi, qu'on emmène dans son lit, parfois, ou ailleurs, ou sur la plage. Et c'est un temps merveilleux parce que c'est un temps personnel. Et je pense que ça va continuer à jouer ce rôle-là et on va avoir un mix qui est multimédia, c'est-à-dire qu'on va parler, on va recevoir de l'actualité comme on le fait aujourd'hui sur des plateformes différentes, mais le magazine c'est un moment privé, un moment privilégié et je pense que les magazines de qualité, parce qu'il faut qu'ils maintiennent cette qualité, vont continuer à jouer un rôle dans cette existence multimédia qui est la nôtre.
1h42, Olivier Royan a choisi Joe Cocker.
Unchain my heart, baby, let me be. 'Cause you don't care, well please, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time
Chain My Heart, Joe Cocker. Je sais que le premier 45 tours que j'ai acheté lorsque j'étais préadolescent, c'était Unchain My Heart par Ray Charles. Et je dois dire que quand Joe Cocker a repris cette chanson, je trouvais ça formidable parce que le thème est là, mais les arrangements sont tellement différents. L'émotion dégagée par Joe Cocker est sublime aussi. Il n'y a pas que Ray Charles qui pouvait le faire.
Et Georges, tu entends derrière ces voix féminines.
Oui, 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 oui.
On en parlait l'autre jour ensemble. Ce film qui s'appelle 20 Feet from Stardom, qui raconte l'histoire de ces choristes. Ces
pratiquement inconnues.
Pratiquement inconnues, qui chantent derrière les stars. Et finalement, 20 Feet, qui ne feront jamais, qui ne parcourront jamais ces 6 derniers mètres jusqu'à la gloire, qui sont les 6 derniers mètres jusqu'au micro de la star qui est à l'avant-scène.
Sous les projecteurs.
Sous les projecteurs.
Parce que souvent, elles sont dans l'ombre.
Et c'est vrai que j'ai choisi cette chanson parce qu'on entend bien les choristes derrière aussi, derrière la voix de Joe Cocker.
Alors maintenant, on va parler du phénomène de l'époque. C'est un artiste qui s'appelle d'un drôle de nom d'ailleurs, The Weeknd, mais sans le E. Il l'a fait exprès, ça interpelle. Il n'est pas bête, tout le monde en parle, mais sa chanson, elle est quand même sublime. La première fois que j'ai entendu ça, je pense que, comme beaucoup de monde, j'ai cru que c'était un titre qu'on avait retrouvé dans les archives de Michael Jackson.
Bien sûr, et on s'est tous posé cette question-là, et depuis que... Alors, la première fois qu'on a entendu parler de lui, c'était en 2011, je crois que c'est Drake, le célèbre artiste et DJ Drake, qui a parlé de The Weeknd sur Twitter, et ça a suscité de la curiosité. Et donc, il a été... En 2012, il avait repris un titre de Michael Jackson, je crois, Dirty Diana. Et puis, lui aussi, il est allé sur le cinéma. En 2015, il était dans la bande originale de 50 nuances de gris. Et puis, alors lui, il est allé aussi dans les pages, j'allais dire, les pages People des magazines, puisqu'on l'a vu aux côtés du mannequin Bella Hadid et aujourd'hui de Selena Gomez. Donc, The Weeknd, c'est un artiste assez complet. Je dois dire qu'on aime bien... On adore l'euphorie que suscitent les concerts. Moi, je pense que les meilleurs moments, je pense qu'aujourd'hui, on aime le théâtre, on aime le cinéma, Mais qu'est-ce que ça fait du bien, un concert, ce moment de partage que crée le rock, que crée. Et alors, j'adore ces grands messes que sont ces grands concerts. Et mes enfants qui ont 15 et 17 ans me disent, mais Drake à Bercy, c'était juste énorme. Et c'est vrai que l'enthousiasme aussi que sont capables de générer en live des artistes comme Drake ou comme The Weeknd est assez étonnant aujourd'hui. Il suscite aussi cette même euphorie auprès des gens qui payent leur place pour aller les voir.
Tu discutes avec tes enfants de musique ?
Oui, je discute d'abord. Je pense que contrairement à mes parents, on a une culture musicale qui est plus large parce qu'on a vécu le développement de la musique et par conséquent, nos playlists peuvent se ressembler parfois. Et en même temps, j'essaye de les amener sur des nouveaux territoires. Mon fils joue un peu de guitare et je l'amène sur des nouveaux territoires. Je l'amène sur des musiques qu'on écoutait il y a longtemps. Et tout d'un coup, ils découvrent, quand on les entend découvrir Queen, par exemple, c'était étonnant. Quand on les entend découvrir George Michael ou d'autres artistes, c'est intéressant. Il y a cette curiosité aussi.
Il n'y a rien qui me rend plus heureux que lorsque je reçois un mail d'un ado de 17 ans ou 15-16 ans qui me dit « Hier, je vous ai écouté sous les couvertures, il ne faut pas le dire parce que mes parents ne le savent pas, mais qu'est-ce que c'était bien Joe Bonamassa, par exemple, pour prendre un exemple. » Ça me rend heureux, tu ne peux pas savoir, parce que...
Mon fils a découvert Ray Charles à travers le film Ray Charles. Il a écouté les disques et il a été fasciné par Ray Charles, par cette personnalité, par cette musique. Et bien sûr,
il aime bien It's the Road Jack.
Absolument.
Voilà. Alors on va écouter I Feel It Coming, et il faut signaler, mais tout le monde le sait, qu'ils ont demandé à Daft Punk de les aider dans les arrangements de cette chanson. Et ça se sent, hein. c'est assez exceptionnel.
Quelle modernité.
J'aime bien ça. Et on écoute ça souvent d'ailleurs dans la collection entre 23h et minuit. I Feel It Coming, The Weeknd, Daft Punk, à 1h50.
Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes. Never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to run. Time. I'm just trying to get you high. Faded off this touch. You don't need a lonely night. So baby, I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch.
I I Feel It Coming. Olivier, on a passé deux heures exceptionnelles à t'entendre raconter des anecdotes des artistes que tu as programmés.
C'est passé vite.
Ouais. On continue jusqu'à 4h du matin, d'accord. Alors, le dernier disque, tu m'as demandé de le mettre véritablement pour terminer cette émission. Peut-être qu'il y a un message derrière cette chanson de Bruce Springsteen qu'il a enregistrée à Dublin avec The Session Band. C'est l'époque où il reprenait des chansons de Pete Seeger. Et c'est We Shall Overcome qui est en fait un bonus de l'album. Pour quelle raison tu voulais que l'on termine ton émission par ce titre-là?
D'abord, je voulais finir par Bruce Springsteen, comme on avait commencé l'émission. Et puis, parce que je pense que dans Springsteen aussi, il y a cette volonté d'englober tout l'héritage musical américain, comme tu disais, quand il a plongé dans ses titres traditionnels. Et puis, We Shall Overcome, c'est la chanson c'est une protest song, hein, c'est la chanson de Martin Luther King qui a été utilisée pendant les marches des mouvements des droits civiques aux États-Unis dans les années 60. Il y a eu un moment d'émotion à la Maison Blanche en 2010 quand John Baez est venu la chanter devant Barack Obama. Et c'est vrai que c'est une chanson éternelle. Et quand Springsteen l'a chantée à Dublin, là encore, c'était, je pense que la musique joue un rôle important politique aux États-Unis. Et là, je pense qu'aujourd'hui, à travers les paroles de Springsteen, c'est aussi une sorte de mobilisation qui se passe par rapport à certaines choses qui se passent à Washington. Et cette chanson est assez éternelle.
Dublin, live, Springsteen, We Shall Overcome. Pour terminer ces nocturnes, signé Olivier Royan. We'll be right back. We Shall Overcome. Springsteen à Dublin, live. Olivier, j'ai passé un très très bon moment en ta compagnie.
Merci Georges, moi aussi.
C'est passé trop vite, comme tu l'as dit. Je pense qu'on pourrait récidiver, si tu es d'accord.
Eh bien, je vous remettrai à ma table de travail et j'essaierai de trouver une programmation à la hauteur des nocturnes. Parce que les nocturnes, pour moi, c'est mon cœur, c'est une grande partie de ma vie.
Tu te souviens comment nous sommes rentrés en contact, tous les deux ?
Bien oui.
Par l'intermédiaire de Jacques Esnou.
Jacques Esnou, et je revenais des États-Unis et après quelques années, je me suis dit, il y a une personne que je veux rencontrer, et j'entends sa voix depuis 20 ans, 25 ans, est-ce que je pourrais rencontrer George Lang ? On m'a dit, oui, on va essayer de voir ce qu'on peut faire, et ça s'est fait.
Esnou m'a appelé, m'a dit, il faut absolument que tu rencontres ce garçon, c'est le patron de la rédaction des Paris Match. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il me veut ? Je ne sais pas écrire, moi. Il m'a dit, non, il veut te connaître, c'est tout. Et ben voilà.
Et ça fait drôle, je dois te dire, la première fois que je t'ai vu et que j'ai eu l'image et la voix en même temps, il m'a fallu au moins 30 secondes ou une minute pour m'habituer.
C'était chez Siamin, au Thaïlandais, à côté de chez Savi. Ce soir, c'était chez Savi. Merci Olivier, rentre bien.
Merci.
En tout cas, bravo pour cette programmation et toutes ces anecdotes que nous a apportées. On salue Albert Koski, qui nous a peut-être écouté jusqu'à la fin. Albert Koski, qui est un de tes potes, mais et qui a été pour moi... quelqu'un que j'ai beaucoup respecté, parce que grâce à lui, on a vu des artistes formidables, puisque KCP, c'était lui le cas de KCP, Kosti Kostoy Productions, il a fait venir toutes les stars du rock qu'on aimait dans les années 70, 80.
Et il nous a envoyé un message très gentil ce soir.
Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Je reviens demain, bien sûr. Demain, c'est jeudi soir. La collection sera teintée Beach Party très 60s et à partir de minuit, W Country, vous pourrez gagner la nouvelle compile Nashville qui sort vendredi 2 juin. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Je vous propose de nous dire à demain. Tomorrow is another day, 1h du matin. 2h du matin. Oui, en général, je m'arrête à 1h, donc j'ai des réflexes. Tout de suite, donc 24h d'info avec Julien Cellier.